Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Radio Fréquence Paris Pluriel.
Tous les jeudis à 20h30.
Salut, salut, tu es bien sur Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3 FM. Il est 20h30 et c'est Zoom Écologie. Et comme tous les deuxièmes jeudis du mois, on retrouve l'équipe des Radieuses pour une nouvelle émission sur les liens entre écologie et nucléaire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux luttes féministes et antinucléaires, qu'elles soient présentes, passées ou futures. L'équipe de Radieuses, elle est dispatchée aux quatre coins de la France. Cette situation, ainsi que le couvre-feu, ne rendent pas l'enregistrement en studio très très facile. On vous propose donc une heure d'émission podcast enregistrée en plein de fois et montée loin de la capitale. C'est parti.
C'est plutôt bon ça.
Tu veux faire un match?
Non, pas encore.
Je t'y connais pas du tout là.
Les 21 et 22 septembre 2019, pour la première fois en France, 500 personnes ont marché en mixité choisie sans hommes cisgenre, c'est-à-dire en accord avec le genre assigné à leur naissance, contre le nucléaire en général et en particulier contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs Cigéo à Bure. Rendez-vous est donné à Montier, près de Bure. Dans le texte d'invitation à l'événement, le collectif organisateur, les bombes atomiques, déclare « Nous marchons afin de défendre un monde qui ne détruit pas le vivant et qui s'affranchit des rapports de domination. Nous portons cette mixité choisie avec colère et détermination face aux privilèges masculins qui perdurent dans les milieux militants comme ailleurs. En réponse, nous aspirons à inventer des moments et des luttes créatives, amusantes, émancipatrices, tout en étant attentifs et attentives aux multiples rapports de domination qui nous traversent, cherchant à les dépasser et les combattre dans nos pratiques et nos lieux de vie. Sans que nous ne l'ayons décidé, les déchets nucléaires proviennent de l'électricité que nous consommons pour chauffer nos maisons, allumer nos lumières, téléphoner ou utiliser Internet. Nous nous révoltons contre le sacrifice des territoires ruraux. De nos liens avec les forêts défrichées, les sols troués, les sous-sols réduits à la condition de ressources, nous puisons la force et le désir de défendre les terres, l'air et l'eau qui font le vivant. Nous revendiquons une existence affranchie de la démesure industrielle, d'une production pensée à l'échelle de nos vies, à partir de nos besoins, et non de ceux de la croissance. Nous défendons la possibilité de décider collectivement ce que nous voulons produire et de trouver des manières de vivre qui se passent de sources d'énergie aliénantes. Le résultat, ce fut un week-end d'ateliers, de formations, de débats autour du nucléaire à Bure et dans le monde, de l'écoféminisme, mais aussi de spectacles et de concerts clôturés par une marche carnavalesque contre l'abominable en direction du laboratoire de l'Andra, des danses et un feu de joie. Un week-end pour se redonner du pouvoir, rassembler d'autres cercles d'activistes et montrer qu'il est toujours possible de marcher contre le projet Cigéo à Bure et dans ses environs. Cette mobilisation fut suivie d'une autre, du 24 février au 1er mars 2020. Une semaine d'ateliers et de discussions se terminant par un carnaval devant les grilles du laboratoire de l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui porte le projet Cigéo. Plusieurs excellents podcasts ont documenté ces mobilisations, en ligne sur radiorageuse.net, on vous la recommande, ou dans l'excellent podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, dont ses sons sont extraits. Aujourd'hui, presque un an après leur dernière action, les bombes atomiques, c'est une dynamique dans toute la France. Un outil pour celles et ceux qui veulent porter de nouvelles actions féministes contre le nucléaire. Un an après, les radieuses, nous avons souhaité revenir sur celle-ci pour se demander comment est née cette dynamique et quelles en ont été les sources d'inspiration. Mais aussi, quel a été l'impact de ces mobilisations sur le territoire et la lutte à Bure? Quelle est aujourd'hui l'actualité de cette lutte et comment les bombes atomiques se mobilisent-elles sur place? Alors que l'actualité est saturée du Covid et de ses conséquences sanitaires et sociales, notre émission a choisi de plonger dans l'actualité de la lutte féministe et antinucléaire à Bure pour continuer à en mettre en avant la pertinence et la force.
Thank you.
pense au moment où la dynamique bombe atomique s'est mise en place.
Louise, militante, participant aux bombes atomiques dans la Meuse.
Parce que c'est vrai que les bombes atomiques, c'est plus une dynamique finalement qu'un collectif, si je commence à réfléchir un peu. Au moment où la dynamique des bombes atomiques s'est mise en place, c'était un contexte assez dur en Meuse. Il y avait énormément de répression. Moins de personnes militaient durant cette période. Il n'y avait pas eu de marche depuis presque un an et demi auparavant, enfin de marche à 500. On peut dire que c'était une période de creux. Et moi, je dis toujours, il fallait au moins une dynamique féministe pour que j'aie à nouveau envie de faire des choses. Et je crois que j'avais plus trop envie de continuer à frayer sur ce territoire. C'était un moment un peu dur. Et la perspective féministe, elle changeait tout. Elle donnait envie de refaire des choses. Ce qui s'est passé quand l'information a circulé qu'une grande action en mixité choisie se préparait contre le nucléaire dans les environs de Bure, c'est qu'énormément de personnes se sont senties touchées, ont eu envie d'y participer, et ces personnes étaient plus ou moins avaient plus ou moins une culture du féminisme, et si c'était le cas, n'étaient pas forcément dans les mêmes féminismes. Mais en tout cas, ce qui plaisait aux personnes, enfin le point commun sur lequel se retrouvaient les personnes, c'était pour une fois de faire quelque chose, toute une organisation de cette ampleur, sans hommes cisgenres. Et vraiment en réaction au sexisme qui traverse le milieu militant, comme toutes les sphères de la société, voilà. Et cette envie d'essayer, d'être cap, de tenter, dans ce contexte de lutte contre les dominations, d'organiser quelque chose d'ambitieux et d'offensif, en mixité choisie sans mec cisgenre. Et c'est vraiment, c'était la proposition qui était vraiment séduisante et sur lesquelles les personnes se sont retrouvées. Alors c'est vrai que j'aurais du mal à parler d'intention, mais est-ce que c'est pas ça dont on a envie d'avoir justement une lutte joyeuse? Et enfin, le nucléaire, c'est sombre, c'est dur. Est-ce qu'on n'a pas envie de ça, justement, de conjurer les choses avec la joie? Et puis, pour moi, c'est aussi associé à la notion de soin, d'être dans des mobilisations durant lesquelles il y a une attention à ce que les gens se sentent bien, à ce que les gens tiennent compte de leurs limites. Et pour moi, c'est aussi les outils du féminisme. C'est peut-être une des raisons qui fait que j'avais envie de participer à cet événement, c'était de me dire, comme il s'agit d'un événement féminisme, il va y avoir une attention aux soins et donc au fait qu'on aille bien, qu'il y ait de la joie et qu'une attention qui soit portée vers les autres. Alors d'où ça vient? D'où ça vient ça? Ça vient au départ d'un séminaire à l'EHSS. Et c'était un séminaire sur Bure qui se déroulait en plusieurs sessions. Et durant ce séminaire, il y a eu une journée consacrée à l'écoféminisme. Durant cette session sur l'écoféminisme, plusieurs personnes ont évoqué des grandes mobilisations de femmes contre le nucléaire, donc des mobilisations de femmes qui se sont plus particulièrement déroulées dans des pays anglo-saxons, mais en fait, des mobilisations de femmes contre le nucléaire, il y en a eu aussi au Japon, enfin, on l'oublie souvent, mais sur plein d'autres territoires. Et entre autres, dans les années 70, il y a eu des grands rassemblements en mixité choisie à plus de 2000 personnes. On peut citer une action, une marche sur le Pentagone, ou on peut aussi citer en Angleterre des actions par rapport à un camp militaire. Et suite à ce séminaire, des personnes se sont dit que ce serait vraiment passionnant, intéressant de relancer comme ça des actions en mixité choisie. Et c'est de là finalement que sont parties les bombes atomiques. Même si ensuite, après, ça a été tout un processus où les personnes, elles se sont demandé qu'est-ce que ce serait aujourd'hui de faire une action féministe contre le nucléaire, de quelle mixité avons-nous envie. Enfin voilà, le féminisme, ça se réinvente selon les époques, toujours. Mais en tout cas, c'est parti de ça, c'est un peu le passé qui a inspiré cette envie, ce désir d'essayer d'aller vers là. Hand in hand, the line extends all around the 9-mile fence. 30,000 women chant, bring the message home.
Les actions contre un camp militaire dont parle Louise, ce sont celles d'un groupe de femmes qui, en septembre 1981, en pleine guerre froide, établissent un camp de la paix à Greenham Common, en Angleterre, pour protester contre la décision du gouvernement d'y accueillir des missiles nucléaires. Alors que les mobilisations pour la paix et contre les armes nucléaires rassemblent largement, ce camp en mixité choisie sans hommes cisgenres réunit des milliers de personnes de milieux sociaux très variés qui viennent de toute l'Angleterre pour y vivre et y lutter. Il constitue ainsi le point de départ de nombreuses actions, blocages, intrusions dans la base militaire de Greenham Common, destruction des grilles qui l'entourent, manifestations. Les actions sont souvent joyeuses. Elles sont accompagnées de chants, de déguisements, de danses, comme lorsque de nuit, elles sont plusieurs dizaines à s'introduire dans le camp pour danser sur les silos prévus pour abriter les missiles, opposant ainsi leur joie de vivre aux armes de mort. On les entend ici chanter au cours d'un blocage dans un documentaire de Bibban Kidron de 1983, Carry Greenham Home.
On Monday morning, people who usually worked on the base wanted to get in to go to work. The truck drivers had to wait until the police could clear the blockade.
Au départ, lorsque j'ai entendu parler du camp des femmes pour la paix, je pense que j'ai enfoui cette idée au fond de mon esprit, parce que j'avais le sentiment que les sacrifices nécessaires pour entreprendre une action directe de ce type étaient trop importants pour une personne comme moi, avec deux enfants en bas âge et un mode de vie en apparence confortable et sécurisant. Mais un jour, j'ai reçu une lettre d'une des femmes du camp pour la paix, qui nous disaient qu'elles étaient menacées d'expulsion. Elles avaient besoin d'une présence physique importante de femmes, et c'était quelque chose que je pouvais faire. Alors, j'ai empaqueté mon sac de couchage, et j'ai parcouru les quelques 300 kilomètres qui me séparaient de Greenham Common, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Je n'étais jamais allée dans un camp pour la paix auparavant. Je ne savais pas vraiment ce qui s'y passait. Mais la chaleur et l'amour avec lesquels j'ai été accueillie, l'absence totale de suspicion, furent pour moi source d'une grande émotion, et je fus convaincue d'avoir pris la bonne décision. Le simple fait que ce camp existe est un rappel permanent au gouvernement que de nombreuses personnes refusent de prendre part à la course aux armements nucléaires. Nous ne sommes pas qu'une bande de bonnes femmes assises autour d'une base militaire. Nous portons la voix de milliers de personnes qui ne veulent pas que des missiles de croisière soient entreposés ici. Il me semblait que c'est une drôle de démocratie que celle qui permet de prendre une telle décision sans consulter le Parlement, sans même parler du public. Tout autour de moi, je pouvais ressentir cet état d'esprit malsain dont la motivation n'était pas le caractère sacré de la vie, mais la peur qui nourrissait la course aux armements. Je trouvais fou que le gouvernement déverse nos précieuses sources d'énergie, nos ressources, des millions de livres sterling dans quelque chose destiné à l'extermination massive au lieu d'investir cet argent dans les services sociaux, la santé et l'éducation. Mais ce n'est pas qu'une question de coût et de stratégie militaire alternative, c'est une question morale. Il n'y a en réalité qu'une seule question à se poser et c'est celle-ci. Tireriez-vous sur la gâchette? Appuyeriez-vous sur le bouton? Si la réponse est non, rejoignez-nous et aidez cette lutte pour la paix. Le camp pour la paix est plus qu'un geste courageux de défi. C'est une expérience de résistance non violente, des personnes ordinaires qui prennent leurs responsabilités, pas uniquement face à ce que l'on fait en leur nom, mais aussi dans la façon dont nous nous comportons les unes envers les autres. C'est sans doute mon instinct qui m'a amené ici, la conviction profondément enracinée que rien au monde n'est plus important que la paix et que ce qui se passe ici, derrière ces portes, est mauvais et ne fait qu'ajouter à notre mise en danger. Ce week-end, nous avons prévu une action directe. Nous voulons bloquer la base pendant 24 heures en nous enchaînant aux barrières et nous risquons d'être arrêtés et emprisonnés. On m'a accusé d'être cruel et d'avoir un cœur de pierre parce que j'avais laissé mes enfants, mais c'est précisément pour eux que je fais cela. Dans le passé, les hommes ont quitté leur foyer pour faire la guerre. Aujourd'hui, les femmes quittent leur foyer pour la paix. Sarah Van Zin, mars 1982. Des femmes contre des missiles, Alice Cook et Gwyn Kirk, édition Cambourakis.
I think the single most important thing that it gave me was an understanding that rules aren't necessarily to be kept and that this kind of good little English girl act can stop you from doing an awful lot of things. And it made me understand that anything that you want to do and that you can see the point of, you can actually just go ahead and do it and keep doing it until somebody physically comes and stops you.
Faced with a government that had airlifted in American cruise missiles against the wishes of the majority of the population, women's frustration erupted into action.
Tu es bien sûr Fréquence Paris Pluriel et tu écoutes Zoom Écologie. Aujourd'hui, avec les radieuses, on s'intéresse aux luttes féministes et antinucléaires, passées, présentes et futures. Bonne écoute.
Well, have you seen pictures of bodies all burnt? Imagine it's you and your family so hurt. We can stop the madness, but we must do it now. So come down to Greenham, take the fence down at Greenham. We won't move from Greenham, for time's running out.
Alors que les femmes luttent pour la paix contre le nucléaire en Angleterre, les mobilisations, vives dans les années 70, continuent en France contre la construction de centrales nucléaires. Dans quel contexte s'inscrivent-elles? Revenons un petit peu en arrière. En 1973, le monde est secoué par le premier choc pétrolier. Alors que le prix du baril de pétrole s'envole, les grandes puissances occidentales s'alarment de leur dépendance à l'or noir et des conséquences économiques qui les menacent. La réaction de la France prend la forme du plan Messmer, annoncé le 6 mars 1974 lors d'un entretien à la télévision, du nom du premier ministre d'alors, Pierre Messmer. La France disposait déjà de quelques centrales nucléaires principalement destinées à produire le plutonium nécessaire à la force de dissuasion militaire voulue par le général de Gaulle. Le plan Messmer vise à les multiplier dans le but annoncé de produire une énergie libérée du pétrole. 13 nouvelles centrales sont ainsi mises en chantier. En 1974, la population n'est pas consultée. En 1974, on pointe déjà du doigt les limites de cette stratégie et l'importance de diversifier les sources d'énergie pour produire de l'électricité.
La carte du nucléaire en France aujourd'hui et demain, la voici. Sont en service les centrales des Monts d'Arrée, du Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, des Ardennes, de l'Ain et du Gard. 12 milliards de kilowattheures en 73, soit presque 9% de la production nationale. Ne figurent sur cette carte ni les installations militaires, ni le réacteur expérimental Phoenix. En construction, les deux tranches de Fessenheim, deux autres à Bugey, chaque tranche désignant un réacteur et toute son installation. Trois autres centrales seront renforcées, deux tranches supplémentaires à Bugey, deux autres à Saint-Laurent-des-Eaux, une extension à Chinon. Quant au but visé par les pouvoirs publics en fonçant dans l'ère nucléaire, il est le suivant. En 1980, le nucléaire doit couvrir 23% de la demande électrique, en 85, 50%, à la fin du siècle, près de 90%. Étant donné le délai de 6 ans entre mise en chantier et mise en service, notre dépendance à l'égard du pétrole arabe ou non ne diminuera qu'après 1980. Mais le pari nucléaire est au moins double. Primo, les techniques sont américaines. Secondo, l'uranium enrichi, indispensable à ces techniques, est lui aussi américain. Ces deux faits hypothèquent singulièrement l'idée même d'indépendance. Cela dit, pour ne pas risquer en l'an 2000 ou avant d'être dans une situation analogue à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une dépendance quasi totale à l'égard non plus du pétrole mais de l'atome et de ses dangers éventuels, il convient dès aujourd'hui de rechercher des sources d'énergie non nucléaires. Il faut en somme aujourd'hui préparer la relève du nucléaire.
Archives INA, 1974. En 1974, donc, la population n'a pas été consultée, mais elle a décidé de donner son avis sur la construction des centrales. Et celui-ci est plutôt défavorable. Des marches avaient déjà réuni, en 1971, 1500 personnes à Fessenheim. En juillet de la même année, de 15 000 à 20 000 personnes avaient marché contre la construction de la centrale du Bugey. Dans les années 70, les marches et les actions de protestation se multiplient. C'est notamment à cette période, le 13 juillet 1977 plus exactement, que la lutte contre le projet Superphénix, dont il a été question dans la première émission des radieuses à laquelle on vous renvoie sur la mémoire des luttes au Bugey, rassemble 20 000 à 40 000 personnes à Crémaillville. En Bretagne, dans le village de Plogoff, les habitants et habitantes se mobilisent dès 1976. Cette lutte a fait date. D'ailleurs, vous en avez déjà sûrement entendu parler. D'abord parce qu'elle a été victorieuse, même si l'abandon du projet n'est pas dû à la seule opposition locale, on n'entrera pas dans les détails. Ensuite, parce qu'elle a largement rassemblé, localement puis nationalement. Enfin, et c'est ici ce qui nous intéresse, parce que les femmes y étaient tout particulièrement actives. Bon, la rencontre entre les féministes antinucléaires anglaises et les femmes de Plogoff n'a pas eu lieu, notamment parce que les motifs pour lesquels elles se mobilisaient diffèrent à bien des égards, et cela fera l'objet, petit teasing, d'une émission spécifique à venir. Reste à souligner que les femmes de Plogoff, engagées autant aux barricades que dans les comités de soutien, inspirèrent et continuent d'inspirer par leur détermination à s'imposer dans le débat, leur constance dans la lutte et par l'imagination dont elles surent faire preuve pour faire valoir leur droit à s'opposer au nucléaire mortifère.
Il est évident que dans une technologie aussi compliquée que le nucléaire...
Dossier Plogoff, un film documentaire de François Jacquemin.
Les désidérata de la population ne peuvent que très difficilement être prises en compte. La réaction légale n'est pas permise, n'est pas possible en réalité. La réaction légale, ce serait effectivement de pouvoir décider de l'emplacement de la centrale ou décider du refus de cette centrale. Or, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas ce pouvoir de refuser par les voies légales la centrale. Donc la seule solution qu'ils ont, c'est effectivement de prendre le lance-pierre et de lutter contre cette provocation pour bien montrer qu'ils ne rentreront pas dans le jeu de cette apparence, de cette formalité de démocratie.
C'est d'abord à Saint-Yves, à l'extrémité ouest du bourg de Plogoff, que s'installent les mairies annexes. La position se révèle rapidement intenable pour les gardes mobiles, et à partir du 12 février, c'est à Trogor, à l'est du bourg, que mairies annexes et forces armées prendront désormais position. Mais pour être en place à 9 heures, et sur un endroit propre, comme le stipule le règlement, c'est à 5 heures du matin que les mobiles doivent se mettre en route.
Car toutes les nuits, les habitants obstruent les voies d'accès à Plogoff avec des barricades ou des obstacles divers et déversent sur l'emplacement même des mairies des tonnes d'ordures ménagères ou de lisiers de porc qu'il faudra déblayer. Ensuite, et jusqu'à 17 heures, ils auront à subir le face-à-face rituel, obsédant, avec ces gens dont on a bouleversé la vie et qui leur crachent au visage leur colère et leur dégoût, avec ces femmes à l'ironie cinglante et au verbe haut. Jour après jour, ce sont elles qui se relaient pour assurer la permanence devant les gardes mobiles. Elles qui imaginent, soit au sein du comité de défense où elles sont majoritaires, soit individuellement, les formes que prendra la lutte contre l'occupant.
Les mobiles nous demandaient pourquoi on était contre eux, pourquoi on leur en voulait tant que ça. On leur disait que c'était pas après eux qu'on en avait, qu'ils lâchent les deux mairies annexes et puis c'est tout. On restait des heures entières, plantés devant deux ou trois sentinelles, à leur expliquer notre lutte. Parce qu'ils ne la comprenaient pas. Certains, peut-être. On n'avait pas besoin de les injurier. Avec la langue, on leur a fait du mal. Chacune disait ce qu'elle voulait dire. On les touchait comme ça, plutôt qu'avec un caillou. Le matin, j'allais avec une amie. Quand on arrivait, on engueulait un peu ceux qui étaient là. À midi, quand ils allaient bouffer, on les engueulait un petit coup, et puis on attendait que ça passe. À 16h30, là, on les engueulait pas mal. Tout sortait. Le physique, la profession, enfin tout, quoi. En général, on se foutait de la tête qu'ils avaient. C'était du genre, t'as vu un peu comment t'es gaulé ? Et puis sur le boulot, on disait, t'es encore récupérable ? Viens de notre côté, on te trouvera un boulot. Les femmes se sont défendues avec leur langue. Moi, j'étais incapable de jeter un caillou. Je vous dirais franchement, je peux pas. Je suis incapable. J'aurais jamais pu le faire. Mais alors, par la langue, je me défendais comme je pouvais. Comme toutes les femmes. Et c'est ça qui les mettait mal à l'aise. Je crois que ce sont les femmes qui leur ont fait le plus de mal encore. C'est plus facile de lutter contre des cailloux que de répondre aux femmes. Au premier barrage, tout Plogoff était là. Les femmes aussi ont fait les barrages. Cette nuit-là, on a défait les murs.
On a nettoyé les greniers pour construire les barrages. J'avais sorti ma vieille machine à laver.
Quand il y avait les barrages, les femmes y allaient. Elles y étaient. On faisait des barrages aussi, on aidait à les faire. C'était plutôt un travail d'homme, mais on aidait. À mettre des cailloux dans les voitures, on pouvait faire passer les cailloux, des choses comme ça. On donnait la main, ça réchauffait.
Il y avait même une dame de 83 ans, avec nous jusqu'à 3 heures du matin au moins. Celle-là, c'était quelqu'un. Elle a du mérite, elle est courageuse, cette dame-là. Et une petite grand-mère, qui avait peut-être 90 ans, qui faisait la chaîne. J'étais étonnée, je lui disais, ça va être lourd. Oh non. Elle y allait. Au loc, quand on faisait un barrage, elle travaillait aussi. Allez, tiens, un autre caillou, jette-le là.
Les femmes ne céderont pas. Elles sont plus résistantes que les hommes et on est décidé à aller jusqu'au bout. On préfère se faire en laisser emprisonner, se faire arrêter, plutôt que de céder. Parce que quand on réfléchit, pour nous, c'est terrible. On sera détruit, totalement détruit.
Nous restons toujours vigilants.
Annie Carval, présidente du comité de défense de Plogoff.
Si EDF veut venir sur le territoire de Plogoff, nous sommes prêts à l'accueillir, comme il le faut.
Et vous êtes prête à rester là tant que les gardes mobiliseront ?
Ah oui, si on veut mourir, oui.
Et après, la lutte continue.
Oui, oui.
On tiendra jusqu'au bout.
On ne nous parle plus de démocratie, surtout. Ni justice, ni démocratie.
Après, qu'est-ce qu'on a vu hier, surtout. Vous avez vu.
Hier, ici, sur les lieux, on s'en
alors, ni démocratie, ni justice.
Rien. On n'impose pas une centrale avec telle forme de l'ordre.
La force de baïonnette,
la démocratie.
En France, on a le droit de dire oui, mais pas de dire non.
La mobilisation des femmes de Plogoff a nourri la lutte contre le projet de centrale nucléaire. Elle les a aussi nourries, elles. Dans un article publié dans la revue féministe Panthère Première, qu'on vous recommande vivement, au passage, Colline Guérin, qui a étudié le parcours de ces femmes pour un master en sociologie à l'EHESS, nous raconte ses difficultés à interroger les habitantes de Plogoff et ses entretiens avec les habitantes des alentours concernant leur lutte, mais aussi l'impact qu'elle a eu sur leur vie. Elle écrit. À la différence des femmes du village, même de Plogoff, qui, pour la plupart, sont rentrées chez elles après la lutte et dont le silence reste à décrypter, les femmes que j'ai rencontrées ont continué à lutter au quotidien et à nourrir leurs impulsions et convictions écologiques. Pour elles, la lutte contre la centrale a été un accélérateur de l'engagement. Certaines ont ensuite participé à la création des premiers groupements d'achat de produits biologiques et des ancêtres des magasins biologiques, notamment le réseau Biocoop, se sont battues pour des politiques plus écologistes dans les municipalités, etc. Elles ont construit un écoféminisme vernaculaire, terme proposé par la sociologue Geneviève Fruveau, c'est-à-dire un écoféminisme du faire, des gestes du quotidien. Par leurs pratiques et réflexions politiques, elles ont voulu offrir de nouveaux rapports au monde à leurs enfants qui sont devenus les héritiers et héritières du quotidien. À Bure, et plus largement en Meuse, quel impact ont eu les mobilisations des bombes atomiques? On retrouve Louise, militante, membre des bombes atomiques en Meuse.
Pour ce territoire, ce que ça a apporté finalement, ce rassemblement, c'est de faire déjà découvrir à tout un ensemble de personnes Bure, de aussi... c'est pas seulement découvrir, c'est comprendre les enjeux aussi de la lutte anti-nucléaire. En fait, l'imaginaire, il est plus beaucoup anti-nucléaire. Plein de gens, peut-être, se disent qu'ils le sont, mais finalement, c'est des notions qui sont plus beaucoup réfléchies. C'est plus très populaire quand on pense aux grandes manifs des années 70 ou du début des années 80, où la population était largement anti-nuc, c'est plus du tout le cas. Et un événement comme celui-ci, ça permet de remettre le questionnement anti-nucléaire dans les imaginaires, dans les têtes des personnes. Ça a fait énormément de bien localement, d'avoir à nouveau du monde, et puis aussi des choses qui marchent, des choses qui fonctionnent. Un week-end où tout se passe bien, où il n'y a pas de répression, et pour autant un week-end ambitieux. Il ne s'agit pas seulement d'un week-end de discussion, enfin, même si c'est formidable les week-ends de discussion, enfin, je ne veux pas faire d'hierarchie de valeur entre les différentes techniques, mais en tout cas ça faisait du bien aussi pour le territoire d'avoir des choses qui se passent bien. Il y a eu vraiment comme un phénomène de réparation, quoi, de sentir toute cette énergie, toutes ces personnes qui revenaient pour qu'on aille tous ensemble à nouveau marcher dans ce territoire. Enfin, c'était un énorme cadeau. Ça a eu aussi cette conséquence-là, que des nouvelles personnes se sont investies dans la lutte, que ce soit de manière ponctuelle ou plus permanente. Et ça a beaucoup contribué à bonifier les différents lieux de cette lutte. Entre autres, suite à cette semaine, il y avait, quelques semaines ensuite, un chantier à la maison de résistance contre la poubelle nucléaire. Et beaucoup de personnes qui ont découvert la lutte durant le week-end de Montier sont venues, ont participé à ce chantier, donc ont commencé à participer à restaurer les lieux avec cet état d'esprit positif. C'est clair que ça a eu beaucoup de retombées positives. Et depuis, il y a eu aussi donc des petits groupes qui se sont formés, qui ont continué à se former en région. Et au niveau de la Meuse, plutôt des petits séminaires, enfin des petits moments en mixité choisis pour réfléchir sur les textes de fond, gagner en connaissance, en argumentation, plein de moments comme des petits séminaires pour travailler sur les thématiques de fond antinucléaire.
Contre les polices agités, chaque côté de tous les directs, j'ai mis moi une main chopée, mais mes phares à
l'injonction.
Et les flics énervés m'a dit souriant de tout ça, donc j'ai rien à déclarer. Nous voilà au roue dans la crème, je la rame, elle fera la tête qu'on la cache de la canne en cache, mais personne n'est identifiable. Comico pour savoir que j'en décide, me fouille, bien réponds ces questions, si important le soir de tous. Mais j'ai toujours rien à leur dire, alors d'un coup, sans ma conscience, ils prennent la décision de me lever, mes vêtements, j'ai mes débats, je gueule. Les flics regardent sur mon t-shirt, même Lily c'est dramatique, mais traumatique, mes chocs, mes balances dans une cellule après ma voix, j'ai un contrat montré et qui m'agresse. Ils veulent voir mon coup de plus près. Bah si, je le mets sa bille et c'est la panique.
on comprendrá jamás que el bosque era cruz de fin.
Fuera de mi burbuja, mundo es vuestro cismundo. Me enfongo en vuestro fango, me enfundo en algo, nos abundó. So que queréis, no soy, no me conocéis, no me etiquetéis, no me abracéis.
Os arrepentiréis,
solo veo dos salidas, esta mierda de vida. Ocultarme y ahogarme, o desenmascarme, y crearme y afirmarme. Sé que es duro para tu mente, repelente, pero ya ha sido
bastante
autocomplaciente. Si soy eso desconocido, te temido. La gente me critica,
me llama marica.
No en tu mundo sexista, me pongo guapo y purpurina. Maquillaje, mi mejor traje para romper cabezas con estilo y clase.
Posez tranquille sur la place. Il fait chaud, t'es en nage. T'es pas torse nu, ça passe. Toi, signé femme, on dévisage. Excusez-moi, mademoiselle, veuillez remettre votre veste. Mais qu'est-ce qu'elle a à faire la belle? Cette nudité, c'est indigeste. Non, mais regardez ces seins,
c'est indécent.
Qui se font la malle,
c'est un scandale.
Et tous ces poils qui dépassent,
c'est dégueulasse.
Elle est complètement à la masse.
Cette pétasse,
elle se croit à Pigalle.
C'est une marginale.
Alors quoi couvrir cette liberté que je ne saurais avoir? Respectez donc vos droits et vos devoirs. L'histoire ciselée qu'il va falloir revoir. Salope ou non, un équilibre à savoir. Mais voilà qu'elle se lève en furie. Elle a ses règles, cette hystérique.
Oh mais c'est sur ma Lamborghini qu'elle fait pipi. Serait-ce une mouche qui la pique?
Je veux pas d'un corps sexué. On a juste marre de transpirer. Et oui j'avais envie de pisser. Sur ta gueule, make-up je vais renverser. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais c'est du sang.
Bien sûr, le temps est beau, le ciel est bleu. J'ai des amis qui sont aussi des amoureux. Mais aussi en cavale, en cabane et devant le procureur. Je pense à elle, je me dis que j'ai pas le temps. Médite sur les cadrans, wesh elle vient quand la comète. Je marche avec
qui?
Fille des étoiles, sorcière, cyborg, hybride, couleur pastel. On est bizarre, on veut pas se taire. Autant strasser, paillettes, crapper, plaquettes. Je veux pas sexe, mais garde le couteau pour te faire ta fête. Ou couper le cake.
Hier encore ils sont rentrés nous contrôler à ce qu'il paraît, identifier, nous démasquer, nous embarquer. Ils ont dit c'est pas un jeu. Je quitte le vent depuis l'air de grâce, je marche sur la place, à peine j'avance, première rencontre, à mon encontre, on me harponne, on me tamponne, faut te maquiller, t'es assigné, je comprends pas bien. On m'explique que la représentation a commencé.
À quelle idée tu viens d'un pré ou d'une forêt? T'es pas coiffé, mais t'es une fille ou bien un mec, fais voir ta tête.
Du rôle à
jouer. Pourquoi tu grognes, mais t'as deux jambes, t'es un humain, tu pisses dans le chemin, il faut que t'arrêtes, t'es pas un chien.
Je comprends pas bien, puis dans ma main, je regarde la feuille, un questionnaire, y est coché, sélectionné, mon caractère, tous mes critères est précisé, sans s'écarter, les respecter, absolument les incarner. Je rends le papier perplexité, ils comprennent pas, disent ça se fait pas.
À quel moment on aime n'avoir qu'une personnalité?
Moi je veux jouer et aboyer, m'en amuser, pas déprimer. Je pars au hasard pour décadrer chaque coin de mon regard. Ma volonté, me détourner, déséduquer la réalité. Moi je me déploie et toi tu peux rien contre ça. Pas de réconfort, ton désaccord, moi je le mords. Dans un effort, je me restaure et sans report, je prends mon essor. Je m'adore.
On vient d'écouter Bomb the System, une production made in Bure, qu'on retrouve sur le compte SoundCloud Zirap, disponible en ligne et disponible également depuis le site burburbur.info. Tu es bien sûr Fréquence Paris Pluriel et tu écoutes Zoom Écologie. Aujourd'hui avec les radieuses, on s'intéresse aux luttes féministes et antinucléaires, passées, présentes et futures. Après être allé à la recherche des racines anglaises et françaises des luttes actuelles, retour vers le présent et l'actualité des luttes à Bure.
Donc au niveau du CIGEO, la poubelle nucléaire, l'enjeu actuel, c'est la DUP, la Déclaration d'utilité publique. C'est une procédure donc, qui a commencé en août dernier, qui va durer un an et demi. Et l'objet, on va dire, de cette procédure, c'est quand même c'est vraiment un tournant assez important hein, dans la lutte. L'objet de cette procédure, c'est de donner à l'ANDRA, donc le maître d'œuvre du projet, de donner à l'ANDRA la maîtrise foncière. Donc dit autrement, si la déclaration d'utilité publique est déclarée, l'ANDRA aura la possibilité d'exproprier les personnes qui sont sur les dernières terres qui lui manquent, et surtout de commencer des travaux connexes au projet CIGEO. C'est-à-dire que pour commencer le projet CIGEO, il faudra que l'ANDRA attende la DAC, la demande d'autorisation de création. Mais par contre, elle aura le droit, dès l'issue de la DIP, enfin si elle est déclarée, de commencer des travaux connexes. C'est tout ce qui est transport de flux de matériaux, donc tout ce qui est nécessaire à ce transport, c'est-à-dire les réseaux routiers, ferrés, le transport d'électricité, tous les travaux connexes au projet CIGEO.
Pour l'instant, la DUP, l'ANDRA, a publié son dossier de demande de déclaration d'utilité publique, qui fait en tout 3800 pages sur plusieurs pièces. Il y a notamment une étude d'impact sur l'environnement, sur le territoire. Une demande de DUP doit être suivie d'une enquête publique, alors qui est différente d'un débat public. L'enquête publique, c'est en fait sur les territoires concernés, les citoyens et citoyennes sont invités à répondre à l'enquête, à des questionnaires. Il y a toute une procédure légale qui est derrière. Donc en fait, c'est grosso modo, on va en mairie ou sur Internet pour répondre à des questions. À la suite de ça, en fait, l'ANDRA va déposer ce dossier qui doit être étudié et validé ou non par les instances que sont l'État et sûrement d'autres dont j'ai oublié en tête. Suite à la DUP, il y a la DEC, la demande d'autorisation de construction, qui en fait officialise que ce n'est plus un projet mais une construction. Et le dossier de demande d'autorisation de construction doit être beaucoup plus conséquent, doit être étudié pendant 3 ans. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, ils demandent l'utilité publique avant de demander l'autorisation de construction. Et en fait, avoir une utilité publique faciliterait sûrement l'autorisation de construction. La DUP permet l'expropriation, permet pas mal de choses. Du coup, en fait, c'est important en fait de se mobiliser là-dessus. Il y a notamment un terrain qui est une ancienne gare qui est en fait sur la Sellette, qui est acheté par des opposants et qui appartient à. Du côté opposant, et si la DUP passe, ils ont légalement le pouvoir d'exproprier ce terrain. Et aussi, puisque c'est une date importante qui permettrait une demande de DAC, de déclaration d'autorisation de construction. Et s'ils n'ont pas la DUP, ils n'ont sûrement pas la DAC. Donc c'est vraiment important de se mobiliser, je le répète, encore et encore. Le dossier de DUP devrait être déposé fin 2021, si tout se passe bien pour l'ANDRA.
Entre la Haute-Marne et la Meuse, le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure pose une nouvelle fois question. L'autorité environnementale vient de publier un rapport très critique. Sécurité, conséquences sur l'environnement. Les explications de Charlotte Meunier et Maxime Meyer.
Absence de rapport de sécurité, prise en compte insuffisante des enjeux environnementaux. Dans son rapport de 56 pages, l'autorité environnementale remet fortement en question le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Alors que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs demande à ce que le projet soit reconnu d'utilité publique, ce rapport pourrait peser dans la décision.
Juliette Geoffroy, porte-parole du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, le CEDRA.
Nous, on demande à ce que la procédure elle soit gelée. La procédure d'utilité publique, elle doit être gelée. L'enquête publique qui devait avoir lieu dans les prochains mois ne doit pas avoir lieu parce qu'il est hors de question que l'avis de la population, de l'information du public se fasse sur un dossier qui est incomplet et qui est biaisé.
Les risques soulevés par l'autorité environnementale sont pointés du doigt depuis des années par ces collectifs opposés au projet. Pour eux, ce rapport légitime enfin leurs revendications.
Eh bien, en fait, l'autorité environnementale appelle à plusieurs. Certaines choses et donne ses avis. Et en fait, c'est pas vraiment rose. Il y a plusieurs points, notamment sur les conséquences sur les potentiels rejets chimiques et radioactifs lors de la construction et lors de la phase d'exploitation qui pose question. Et notamment, l'AE pour autorité environnementale, dit l'ANDRA propose de développer économiquement le territoire. et faire venir du monde, mais en fait, au vu du projet, c'est peut-être justement l'inverse qu'il faudrait faire. Du coup, c'est quelque chose d'assez fort. Et comment a répondu l'Andra? L'Andra a dit qu'ils allaient faire un dossier de réponse, etc. Et par voie de presse, ils ont dit oui, mais en fait, l'AE est plutôt positif, notamment en citant quelques points et en la jouant à l'envers sur oui, mais ils disent que machin, donc on a travaillé là-dessus. Donc c'est tout des phrases alambiquées qui disent qu'en fait c'est plutôt positif.
Localement et au niveau national, les associations et les syndicats se mobilisent. Dans une tribune publiée sur Le Monde, les membres du Front associatif et syndical, composé entre autres de l'Union nationale solidaire, du réseau Action Climat, de Sortir du nucléaire Paris, de la coordination Stop CIGEO, des Amis de la Terre France, de la Confédération paysanne, du réseau Sortir du nucléaire, de Greenpeace France, de la FNE et d'ATTAC, soulignent que cet avis confirme la dangerosité du projet CIGEO. L'autorité environnementale, instance indépendante, pointe en effet du doigt l'insuffisance de prise en compte des enjeux environnementaux. Le projet, selon elle, aura une énorme incidence sur les ressources en eau, la biodiversité et les milieux naturels, notamment sur le bois Le Jus, cette forêt occupée pendant un an et demi pour la protéger de la destruction, mais aussi sur les nappes phréatiques. Elle met aussi en avant l'impossibilité dans l'état actuel du projet de récupérer les déchets nucléaires en situation accidentelle. Alors qu'à Stockamine, en Alsace, le gouvernement a récemment renoncé à récupérer les 42 000 tonnes de produits chimiques abandonnés à 500 mètres sous terre suite à un incendie il y a 20 ans, ces annonces sont pour le moins très inquiétantes.
Donc c'est une année charnière, qui est une année de communication, beaucoup sur place des enjeux de ces travaux peut-être à venir. C'est aussi une enquête publique qui devrait se dérouler cet été. Alors bon, au niveau des dates, on n'est jamais sûr, parfois les choses se décalent. Et les enquêtes publiques dans la lutte anti-nucléaire, c'est tout un imaginaire. Souvent quand on pense enquête publique, on pense plug-off, on pense les bigoudaines en train d'harceler les gendarmes mobiles. Voilà, les enquêtes publiques, c'est toujours des moments très forts, car c'est des moments qui institutionnalisent les projets nucléaires, enfin pas que, hein, les DUP existent dans tout type de projet, mais c'est vraiment le moment où un projet peut être institutionnalisé. Donc c'est un grand moment de communication, de dossier, autour des enjeux spécifiques aux projets concernés. Pour le moment, on n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de dynamique bombe atomique spécifique à la DUP. C'est-à-dire que il y a eu plutôt ces derniers temps des dynamiques bombe atomique autour d'une meilleure appropriation des connaissances propres à la DUP, parce que c'est des dossiers techniques qui sont souvent assez arides, maîtrisés par les experts. Qui sont les experts? Qui prend la parole? On a plutôt essayé de gagner en force en essayant de comprendre ce qu'il y avait dans ces gros dossiers. Et je pense que chacune va, par rapport à la DUP, faire des choses, mais pas forcément en tant que bombe atomique. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore de plan spécifique. Mais voilà, après... Il y a le temps, hein, c'est la DUP, là on en a quand même encore pendant un an. La lutte de Bure, elle se réinvente en permanence. Elle a des périodes pleines, des périodes de creux, c'est une vieille lutte. Elle a plus de 25 ans. Et on sent que là on est un peu dans une période de transition. Il y a eu des grandes aventures ces dernières années, il y a eu les grandes aventures autour du bois Le Jus. Quand cette aventure s'est terminée, ça a été plutôt dur. Il y a quelque chose, une énergie, une force qui est revenue avec avec les bombes atomiques, on a senti que quelque chose repartait, avec au cœur l'idée du soin et l'idée de prendre soin, et puis aussi d'élargir à d'autres personnes les enjeux de la lutte antinucléaire. Je me rends pas compte de ce que ça va devenir. Et voilà, je me rends pas compte. En tout cas, ça participe à un renouveau et à quelque chose, je dirais, de très fédérateur. À quelque chose qui lie et qui interroge et qui... Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui peut-être crée des liens. C'est des choses qui sont pas figées, qui évoluent. Enfin, sur la question qu'est-ce que préparent les bombes atomiques par rapport à la DUP, moi là j'ai l'impression que plus les bombes, enfin les personnes qui ont envie de s'organiser en mixité choisie, elles sont aussi en train de réfléchir à leur mixité. À essayer des nouvelles mixités. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport avec le plaisir, le désir et l'envie de faire d'une manière qui permette d'avoir envie de continuer. Et que c'est aussi quelque chose d'important de se faire plaisir de telle manière qu'on se projette et qu'on ait envie de continuer à aller de l'avant ensemble.
Dans le contexte d'épidémie mondiale dans lequel nous évoluons depuis presque un an, les perspectives ne sont pas très très joyeuses, et c'est un euphémisme. Qu'il s'agisse de l'augmentation de la précarité et des inégalités, de nos libertés qui sont menacées par la gestion de la crise, des désastres écologiques qui continuent ou de la course folle vers toujours plus de nucléaire avec la relance de construction de nouveaux EPR, l'actualité n'offre qu'une multitude de fronts sur lesquels se mobiliser. Face à ces enjeux, les luttes féministes passées et actuelles sont tout autant de sources d'inspiration pour continuer à construire des solidarités politiques et à diversifier nos modes d'action pour nous rendre collectivement plus puissantes. Une source d'inspiration pour lutter également avec joie. Une invitation que l'on retrouve dans les propos de l'activiste Juliette Rousseau, il y a quelques jours, sur le plateau de Mediapart, alors qu'elle venait présenter le livre « Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde » de Nick Montgomery et Carla Bergman, dont elle publie une traduction aux éditions du Commun. Ces paroles nous inspirent, on a tenu à vous les faire entendre.
Je cultive mes communautés affectives, mes attachements, mes liens, je cultive le soin dans mon entourage et je me laisse soigner par celles et ceux qui m'entourent. Et c'est comme ça que je survis. Et je suis assez convaincue que ça va être de plus en plus fortement ma manière de survivre dans ce monde. Les luttes, c'est un petit peu la même chose en vérité, parce que quand je parle d'attachement, je parle des personnes qui m'entourent, mais je parle aussi du territoire que j'habite, je parle de la façon dont je l'habite et avec qui je l'habite. De la même manière pour les luttes féministes, à des moments qui sont plutôt celles qui m'animent, à des moments où on vit autant de violences, où on voit autant de recrudescence des violences contre lesquelles on lutte, on n'a pas d'autre solution finalement que de renforcer nos solidarités. Donc j'ai l'impression qu'on essaie d'habiter les interstices aussi. On essaie de trouver les façons par lesquelles on peut justement amplifier ces liens d'attachement et ces solidarités en dépit de cette situation. En fait, la joie de Bergman et Montgomery, c'est la joie spinoziste. C'est-à-dire, c'est pas du tout la joie au sens le bonheur, un espèce d'état comme ça.
Béa,
exactement. C'est plutôt la joie comme potentiel de transformation. Donc ça peut inclure tout un ensemble d'émotions, pas seulement des émotions positives. Et c'est ça qui est vraiment très puissant dans leur livre, c'est la capacité justement à essayer de trouver qu'est-ce qui, dans les luttes, nous rend plus puissants, plus puissantes, qu'est-ce qui accroît nos capacités, qu'est-ce qui renforce nos liens, justement, et y compris des luttes qui peuvent partir d'émotions qui sont le deuil, qui sont la perte, qui sont la colère, qui sont en fait des émotions qui traversent souvent, en fait, qui mettent en mouvement dans le monde aujourd'hui.
On termine cette émission sur ces paroles de Juliette Rousseau. Zoom Écologie, c'est terminé pour cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez cette émission des radieuses consacrées aux luttes féministes et antinucléaires sur rfpp.net, le site de Fréquence Paris Pluriel, ou sur zoom-écologie.net. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à votre grand-mère, vos sœurs, votre petit frère, et pourquoi pas jusqu'à vos animaux de compagnie favoris. Sur le site de Zoom Écologie, vous retrouverez également les références qui ont servi à la préparation de cette émission, que ce soit des livres comme le très 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 bon « Des femmes contre des missiles » publié aux éditions Cambourakis d'Alice Cook et Gwyn Kirk sur la mobilisation des femmes de Greenham Common. Un petit livre, malheureusement très très peu disponible, qui s'appelle « Femmes de Plogoff » de René Conant et Annie Laurent, qui est un recueil de témoignages des femmes de Plogoff, dont sont extraits les témoignages des femmes de Plogoff, la revue Panthère Première qui est citée dans l'émission avec un très bon numéro, le numéro 5, dont une partie est spécifiquement dédiée aux luttes de femmes antinucléaires et dans lequel vous retrouverez d'autres informations qui n'ont pas été dites dans cette émission, mais également les références des films documentaires qui ont beaucoup servi et dont des extraits sont dans l'émission, que ce soit le dossier Plogoff, Carrie Greenham Home de Bevan Kidron et d'Amanda Richardson, qui a été oubliée, mais également tous les podcasts qui ont nourri le contenu, la réflexion de cette émission, que ce soit un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée ou Radio Rageuse. Toutes ces références sont disponibles sur le site des Bombes Atomiques, bombesatomiques avec des s.noblogs.org. On conclut cette émission avec la musique. Je vais essayer de bien le prononcer. Neune Nemse Schlufballons. Désolé pour mon allemand au passage. Composé par Nena en 1983. Une chanson pour celles et ceux qui ne le savaient pas contre la guerre et les armes nucléaires. Et donc pour rester dans la thématique. Avant de vous laisser écouter, on tient à remercier toute l'équipe des radieuses, donc dispatchées aux quatre coins de la France, celles qui ont filé un coup de main en lisant un texte, en donnant leur avis sur tout ou sur rien, en menant dans des conditions techniques complexes des interviews en Meuse. On remercie également les militants et militantes pour leurs témoignages, les personnes rencontrées ici et là et qui ont nourri cette émission de leurs réflexions et de leurs conseils. On remercie toutes celles qui nous ont inspirées et qui continuent de le faire. La liste est très très longue. On va seulement parler ici des militantes féministes antinucléaires, bien sûr, les écoféministes et bien d'autres personnes. Et bien sûr, on vous remercie, vous, que vous soyez en ligne ou sur les ondes, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute, en espérant que vous aurez découvert ou redécouvert une foule de choses qui, à leur tour, vous inspireront pour continuer cette lutte. Belle soirée à tous et à toutes, et au mois prochain!